Le programme qui va suivre vous est présenté par le ministère enseigne-moi.com. Soyez transformés par l'enseignement de la parole de Jésus-Christ.
C'est pourquoi en son nom, je pose les mains sur les malades et ils sont guéris.
Jésus macht frei.
Jésus libère.
Jésus rettet.
Jésus. Nous avons la parole de Dieu.
Ici Jean-Baptiste
qui renverse des chaînes, des forteresses.
Tu passes du nom de chrétien au nom d'enfant de Dieu.
L'importance d'exercer la miséricorde. La miséricorde qui s'appelle autrement la compassion. Dimanche passé, nous en avons donné une définition que j'aimerais brièvement vous rappeler. La miséricorde vient du mot latin misericordia, de miséricorde. C'est-à-dire qui a le cœur sensible à la pitié. La miséricorde est l'attitude intérieure qui pousse quelqu'un à s'occuper des gens qui sont dans la détresse et à avoir de la sympathie envers ces gens en détresse. Dans l'Ancien Testament, le verbe hébreu, raham, qui signifie compassion, miséricorde, dit littéralement brûler de pitié, brûler de tendresse pour quelqu'un qui se trouve dans la difficulté, la faiblesse ou la souffrance. Dieu est miséricordieux. Il a manifesté sa miséricorde envers Israël par des actes de miséricorde. Dieu est toujours intervenu en faveur de son peuple qui souffre. Dieu ne se plaît pas simplement à exprimer la miséricorde par des verbes, par des mots, par des attitudes, mais Dieu pose des actes concrets, ces actes qui démontrent de sa miséricorde envers son peuple. Nous avons vu l'exemple de ce malheureux qui allait à Jérusalem, ou plutôt de Jéricho à Jérusalem, et qui est tombé parmi les bandits, qui a été secouru par un Samaritain. Et on l'appelle le bon Samaritain. Nous pouvons l'appeler le Samaritain miséricordieux. Ou le Samaritain compatissant, et il a montré cela par des actes de miséricorde. Luc, qui est un médecin intellectuel de formation et qui a voulu consacrer ses talents à la rédaction, entre autres, les deux livres du Nouveau Testament, le livre de Luc, qui porte son nom, et le livre des Actes des Apôtres, l'histoire de l'Église nous apprend que Luc a aussi décidé de consacrer le reste de sa vie à voyager avec Paul et son équipe pour les soigner physiquement quand ils sont malades. En d'autres termes, c'était, si vous voulez, le médecin personnel de Paul durant tous ses voyages missionnaires. Lorsque Paul écrit « J'ai laissé Trophime malade à Milet », c'est que Luc a essayé de le soigner. Malheureusement, la médecine ne résout pas tous les problèmes, la prière parfois aussi. Et Paul, après avoir prié, n'a pas trouvé des résultats, s'est contenté à écrire « J'ai laissé Trophime malade ». C'est parce qu'il y a des gens qui disent que quand quelqu'un est malade, compris, il doit être guéri, c'est pas toujours vrai. Vous savez, être extrémiste est un fléau. Il y a des maladies que Dieu, dans sa souveraineté, ne permet pas qu'on soit guéri. Ça m'a été ainsi. Nous lisons dans le chapitre 16 de Luc, toujours dans cet élan de la pratique de la miséricorde. Luc chapitre 16, versets 19 à 31. Luc chapitre 16, versets 19 à 31. Après ces études, vous serez des spécialistes un petit peu de Luc, de l'évangile selon Luc. N'est-ce pas? Nous avons vu le chapitre 10, n'est-ce pas? Qui nous parle de quoi? Les trois volets de le ministère d'un chrétien. Nous avons vu le chapitre 15, qui nous parle de la pratique réelle de la miséricorde. Et nous sommes au chapitre 16. Ce chapitre nous parle de l'administration des biens reçus de Dieu. Vous allez voir comment, dans l'administration des biens reçus de Dieu, il doit y avoir une partie qui est destinée à l'exercice de la miséricorde. Luc 16, 19 à 31, nous lisons ensemble. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour de la mort, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi !» Et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant les siennes. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » Le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai cinq frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes. Qui les écoute ?» Et il dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un des morts ressuscité. » Amen. À l'administration des biens matériels, dans la version pratique de l'exercice de la miséricorde. D'abord, j'aimerais vous dire que le Seigneur n'appelle pas ceci une parabole. Parce qu'une parabole, c'est une imagination. Puisqu'il ne dit pas parabole, cela doit être une histoire vraie. En fait, qui s'est passé dans la vie du peuple de Dieu, il est fort possible que les auditeurs de ce récit s'en rappellent certainement. Il est vrai que, dans ce récit, ces auditeurs qui se rappellent de cette histoire savent simplement une partie, la partie visible, la partie que l'homme peut appréhender, la richesse et l'opulence et le style de vie de ce riche, la misère, la souffrance et les malheurs de ce pauvre, et probablement le récit de leur mort. Il est vrai que l'un a été enterré avec pompe, trompette, etc. Comme j'avais lu une histoire d'un riche américain qui avait dit, « Quand je serai mort, vous m'enterrerez dans une Cadillac en or. » En fait, hier, je suivais, après-midi, je crois, un récit d'un mariage d'un prince. C'est un pays que je n'ai jamais entendu en Asie. Je connais pas beaucoup la géographie. En tout cas, ce roi-là, il paraît que c'est l'homme le plus riche au monde. Alors la voiture que transportait le prince et sa fiancée, c'était en or. Un Rolls-Royce en or. C'était très impressionnant. C'est bien. Voyez donc, les gens se sont rappelés de ces choses-là. Mais ce qu'ils n'ont pas connu, et c'est ce que le Seigneur leur révèle dans cette affaire, c'est la vie après la mort et au-delà de la mort. La deuxième remarque, puisque là était la première remarque, que ce n'est pas une parabole, c'est un récit, une histoire. C'est du vécu. La deuxième remarque, c'est que le riche n'est pas allé en enfer parce qu'il était riche. Et le pauvre n'est pas allé au ciel parce qu'il était pauvre. Vous suivez? C'est des choses qui se passent sous silence, mais puisque c'est un récit biblique, il est dit, la Bible s'explique par la Bible. En matière de salut ou de perdition, la Bible nous enseigne que le salut repose sur la foi dans le Seigneur Jésus. Et les hommes seront condamnés uniquement pour avoir refusé de croire dans le Seigneur Jésus. Donc, si le pauvre est allé au ciel, ce n'est pas parce qu'il est pauvre, mais c'est parce que dans sa pauvreté, il a accepté Jésus-Christ. Il a eu la foi en Dieu. C'est très simple. Et le riche a refusé la foi en Dieu. C'est très simple de le voir. À l'heure actuelle, l'Afrique est très pauvre. Dans certains pays, des gens se réveillent et ne savent même pas de quoi il sera fait cette journée-là. Ils ne savent pas comment ils vont manger. Et la misère bat son plein. Les ulcères dont il est question ici, c'est symbole des maladies. Et vous savez bien combien l'Afrique est touchée par toutes sortes de fléaux. Il paraîtrait que c'est le continent le plus affecté par le sida. Et puis en Afrique, un jour, on se réveille au Congo, on nous dit qu'il y a la fièvre, comment ça s'appelle encore, d'Ebola. On n'a jamais entendu parler de ça. On suppose que ça venait des singes, etc. Et puis maintenant, on n'en parle plus. Puis tantôt, c'est des dysenteries, etc., etc. Et dans cette souffrance, dans cette misère-là, l'Africain a choisi d'accepter Dieu. Il va dans les églises pour prier, pour jeûner, pour invoquer le Seigneur. Écoutez-moi, je n'ai jamais défendu ou argumenté le fait que les Africains prient parce qu'ils sont pauvres. C'est biblique. La Bible nous dit qu'il est plus riche, il est plus difficile pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu qu'un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Quand on a l'argent, quand on est dans l'abondance et dans l'opulence, on rejette Dieu. Disons un peu ce que le livre des Proverbes nous enseigne sur les conseils d'un certain, je crois, Agur, à Itiel, Proverbe 30. Le verset 1 du Proverbe 30 nous dit ceci. Parole d'Agur, fils de Jaqué. Sentence prononcée par cet homme pour Itiel. Pour Itiel et pour Ucal. Ne me demandez pas qui est Itiel, qui est Ucal et qui est Agur. C'est des hommes de la Bible. Nous sommes dans le Proverbe 30. Alors, Au verset 7 du Proverbe 30, c'est la prière d'Agur. Je te demande deux choses. Il dit à Dieu, ne me les refuse pas avant que je meure. Éloigne de moi la fausseté, la parole mensongère. ne me donne ni pauvreté ni richesse, accorde-moi le pain qui m'est nécessaire, de peur que dans l'abondance, je ne te renie et ne dise qui est l'Éternel, et que dans la pauvreté, je ne dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu. Amen. Il dit, dans la richesse, pour que je ne sois pas tenté de dire qui est Dieu. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de prêcher à quelqu'un qui est matériellement aisé, à un homme riche. J'ai eu l'occasion de le faire lorsque j'étais étudiant dans mon pays au Congo. Il n'y a pas une scène aussi humiliante pour un prédicateur que de parler directement à un riche. Il reçoit ça avec un sourire de dédain. Il ricane, il te regarde de la tête jusqu'aux pieds, comme pour te dire, j'ai pitié de ta pauvreté et de ta misère. Un jour, un frère de notre assemblée, dans le métro, il a voulu prêcher Jésus-Christ à un blanc. Il n'a pas fait écho à son message. Il a simplement regardé de la tête jusqu'à son pied, il lui a dit, si ton Jésus là est Dieu comme tu l'as dit, mais pourquoi il t'achète pas un bon pantalon? Et effectivement, ce frère était très pauvre. Il avait un pantalon blue jeans déchiré. Vous savez qu'à partir de ce jour-là, il a décidé d'être en costume tous les jours. Et puis il lui a dit, au fait, nous, ici en Europe, on n'a pas besoin de Dieu. On a tout. On a l'assistance sociale, on a les mutualités, on a tout ce qu'il faut, on mange à notre faim. Mais retourne chez toi en Afrique. C'est eux qui ont besoin de Dieu. Vous voyez, le riche rejette Dieu facilement. Et vous allez voir que quand quelqu'un a un peu d'argent, il affiche une certaine suffisance dans son attitude. Il parle avec assurance. Il parle avec la voix basse. Et j'ai connu même des riches dans mon pays, quand ils commencent à parler, vous avez difficile à saisir ce qu'ils disent. Alors, je me dis, donc, l'argent rend les gens un peu dingues, quoi. C'est vous qui devez faire un effort, n'est-ce pas, pour vous accrocher à ces paroles, et pour écouter ces paroles, lui, il ne vous suit pas. Ce que je voulais souligner là, c'est tout simplement le fait que, si le pauvre est allé au paradis, c'est fort possible que dans sa misère, il a saisi la seule espérance qui lui était tendue. C'est le salut en Dieu. Il a souffert. Pourquoi Dieu ne l'a pas guéri? Ça, c'est un point d'interrogation que nous saurons. Je l'ai dit tout à l'heure, tous les malades ne sont pas guéris par Dieu. Scandaleux pour les spirituels pentecôtistes, mais vérité immuable. La preuve, c'est que si Pierre et Jean ont guéri ce malade qui était devant le temple, c'est que pourtant Jésus est passé par là plusieurs fois, c'est que Jésus ne l'a pas guéri. C'est réservé à Pierre. Est-ce que les Pierres ont guéri tous les malades qui étaient au temple? Non. Lazare, il est mort malade. Mais il est mort malade dans la foi. Et je préfère que tu meures dans ta misère, mais dans la foi en Jésus-Christ. Le riche a repoussé l'évangile. Laissez-moi vous dire que la richesse est une notion, mais il y a un mot que je cherche, relative. C'est une notion relative. Si j'arrive dans mon village comme je suis là, je suis vraiment riche. Et surtout si j'amène ma voiture, oh là là! Je me rappelle un jour, mon grand frère m'a écrit une lettre. Il me dit, cher petit frère, dans notre village, tu es vu comme le président Mobutu. Viens construire les hôpitaux.
donne des bourses aux étudiants, construit des écoles. Oh là là. Mais parce que pour eux, c'est vraiment le riche, hein.
Alors je lui ai répondu que j'ai bien reçu ta lettre, cher grand frère. Il est vrai que je suis très riche. Et les gens le disent. Mais je suis riche en espérance. Je crois qu'un jour je le serai, et ce jour-là je ferai tout ce que tu m'as demandé de faire. Pour l'instant, je prie encore. Vous allez vous rendre compte que le pauvre, lorsqu'il est invité pour la prière, il vient sans respecter. Je me rappelle dans mes années de jeunesse ou d'enfance, 5, 6, 7, 8, 9 ans, quand je voyais ma grand-mère au chant du coq, puisqu'au village il n'y a pas d'heure, hein, peut-être il y a une ou deux montres dans mon village, c'est l'enseignant et etc. Donc le commun n'a pas l'heure. Quand tu veux savoir l'heure, tu regardes le soleil. Ou alors le chant de coq, etc. Au chant de coq, donc, ma grand-mère, elle allait à la prière. Et là, on entendait des chants. Et quand tu arrives à l'église, elle est remplie. Et après la prière, les gens vont au chant. Il y en a qui disent que le réveil du Congo, c'est dans les années 80. Dans certains pays, en tout cas, dans nos villages, le réveil a toujours eu lieu. Nous sommes nés dans le réveil. Tous les jours, c'était ainsi. Lorsque on convoque une réunion de prière en Afrique, vous trouvez l'église remplie. Parce qu'ils sont des pauvres. Ils n'ont pas d'autre espérance que de saisir la foi en Dieu. Les mêmes Africains qui ont tant prié quand ils arrivent en Europe, avec trois costumes dans la garde-robe, une ou deux belles paires de chaussures, et ça devient un drame, on est riche. Et il y en a même qui écrivent dans les belles familles pour dire, je suis payé avec l'argent de CPAS, 17 ou 19 000 francs belges, c'est moins de 500 euros, je ne sais pas combien on donne maintenant au CPAS. Avec ça, il est content. Il pense qu'il est riche. La richesse est une notion relative. Bien sûr, par rapport à ses copains avec qui ils étaient en gym et qui n'ont rien. Il est riche, n'est-ce pas? Et si par bonheur, il a une petite bagnole d'occasion qui demande de temps en temps un peu d'effort pour pousser pour le démarrage, alors il envoie des photos avec des manteaux. Il est riche. Et tous les amis regardent et disent, oh, il faut aller en Europe à tous les prix parce que là on devient riche. La richesse est une notion relative. Et vous verrez que les riches que vous êtes aujourd'hui par rapport à nos bien-aimés qui sont en Afrique, nous ne prenons pas les choses de Dieu au sérieux. C'est ça qui va nous envoyer en enfer. C'est ça qui va nous envoyer dans la gêne. N'est-ce pas? Quand tu compares, peut-être qu'il y en a ici qui ne connaissent pas ça. Mais quand vous les enfants là, quand vous regardez les images qu'on veut faire passer de l'Afrique là, de voir les enfants nus, etc. Comme un de mes enfants disait, j'ai pas envie d'aller dans ton pays. Je dis pourquoi? Ah ben ils vont tout me prendre. Je dis quoi? Parce qu'ils n'ont rien là-bas. Votre richesse, hein, c'est ça qui va vous amener en enfer. Si vous n'apprenez pas, si nous n'apprenons pas, puisque je ne suis pas exclu, moi non plus, si nous n'apprenons pas à bien administrer ces biens matériels que Dieu nous donne. Donc, l'un a reçu facilement sa foi, et l'autre a rejeté la foi. C'est pourquoi l'un est au ciel et l'autre en enfer. Deuxième chose, le train de vie du riche, c'est un train formidable. Chaque jour, nous dit le verset 19, il menait joyeuse et brillante vie. Oui, l'argent, oui, ça fait du bien. Ça donne un bonheur. Oui, on avait un ami dans la misère et puis il a trouvé un bon travail. Et quand on lui demandait comment ça va, il travaillait dans la société Gécamine. Il répondait simplement, la Gécamine me prend au sérieux. Pour dire qu'il était heureux, maintenant, joyeuse et brillante vie. Qui a dit que l'argent est mauvais? Qui a dit que le matériel n'accorde pas un bien-être? La Bible dit que c'était une vie vraiment joyeuse. Et la vie était brillante chaque jour. Au verset 20, on nous parle du pauvre. Les riches, on ne donne même pas son nom. Vous savez pourquoi? Bon, je pense. C'est parce qu'un nom qui va aller en enfer, il va servir à quoi? Le pauvre, par contre, on nous donne son nom. C'est juste l'inverse, n'est-ce pas, de la société. Dans la société, quand on est riche, tout le monde dit sur ton nom, connaît ton nom. Mais dans le royaume des cieux, il n'y a que ceux-là dont les noms sont inscrits dans le livre de vie. Ceux-là, on connaît leur nom. Dans le ciel, en tout cas. Le pauvre. Et on donne son nom, nommé Lazare. Je suis impressionné. Il était couché à la porte du riche. Vous voyez, le bon samaritain, il passait par hasard. Il a trouvé le pauvre. Il est intervenu pour le secourir. Monsieur le riche ici, il a une occasion. Le pauvre est couché à sa porte. C'est pas loin, à sa porte. Ça veut dire que tous les jours, il a le privilège et l'occasion d'aider ce pauvre. Mais il n'ose pas. Il veut pas. Il refuse de l'aider. Vous voyez, chaque jour, il avait joyeuse et brillante vie. Mais juste à côté, à sa porte, un misérable était là. Regardez comment on le décrit. Couvert d'ulcères. Le samaritain a trouvé cet homme battu avec des plaies partout. Il a sorti son huile, son vin, il a soigné. Celui-là a le pauvre avec des ulcères aussi. Mais il estime que sortir son huile et son vin, c'est du gaspillage. Il le laisse mourir à petit feu. Faisons attention avec ceux qui est juste à côté de nous. Les gens qui ont besoin de la miséricorde, nous n'avons probablement pas besoin de faire de longs voyages pour aller les chercher où ils sont. J'aime la mission. Mais est-ce que nous avons vraiment besoin de prendre des avions pour chercher des malheureux? Il y en a qui sont à notre porte. Deuxième chose pour ce malheureux. Il était désireux, verset 21, de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Personne donc ne lui en donnait. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Encore par rapport au bon samaritain. Le bon samaritain a soigné les plaies. Il l'a amené à l'hôtel, dans une hôtellerie, a pris soin du corps en le lavant, l'habillant, et nous avons dit probablement lui donnant à manger parce qu'il avait faim. Mais le mauvais riche, la même occasion lui est donnée, mais tous les jours, il a laissé le pauvre mourir de faim. Et il est mort. Verset 22, le pauvre mourut. Mort de sa misère. Mort de ses ulcères. Mort de sa faim. Quelle malheureuse mort. porté comme un rien et jeté quelque part dans la tombe. Au verset 22, curieusement, on dit « Le riche mourut aussi ». Ah, peut-être mort des syndromes de la richesse. N'est-ce pas? Lorsque on est riche, on mange trop. Actuellement, l'Occident est en train de souffrir du syndrome de la richesse. Beaucoup d'Américains meurent plus de crises cardiaques que de sida. Le riche mourut parce que tué par sa propre richesse. Est-ce que vous connaissez la consommation d'une voiture de course de Formule 1? Vous connaissez la consommation? Faites un peu de recherche. Et le prix d'une voiture? Vous savez combien de ces pilotes-là sont morts? Tués par leur propre richesse. Le taux des accidents. En fait, ils meurent des gens par accident de voiture ici en Occident. Évidemment que l'on meurt en Afrique, hein, ça c'est certain. Mais les accidents, la route tue plus que les maladies. Ces belles voitures, Porsche, Mercedes, etc. Des belles voitures, mais qui filent. Et les jeunes aiment ça. Surtout quand ils sont issus des familles nanties. Quand ils se mettent à rouler, ils oublient même le tableau de bord. Je me rappelle d'un jeune qui me racontait son aventure. Il avait vidé le tableau de bord. Il voulait dire à son voisin de regarder le tableau de bord. Il ne pouvait plus lui parler. Il le tape juste et puis il le montre. Et l'autre regarde, il pousse et il le voit. La voiture tue. Oui, la mort par la richesse. Vous vous rappelez de ce bateau Titanic? 3000 personnes riches sont mortes de leur richesse. Parce qu'ils sont allés inaugurer le bateau, ils ne sont plus jamais revenus. Le riche est mort aussi. Le pauvre, il nous est dit qu'il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham, nous dit le verset 22. Les anges, nous dit la parole de Dieu, sont au service des saints dans cette vie. Il est donc évident qu'ils ne lâchent pas leur service auprès des saints, même à la mort. C'est là que le psalmiste dit au psaume 23, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne avec les saints jusqu'au moment de leur mort pour porter leur âme dans le Seigneur, auprès du Seigneur. » Je vous expliquer juste entre parenthèses quelque chose. Le sein d'Abraham, c'est le lieu du séjour provisoire pour les croyants morts avant la venue de Christ. En fait, vous allez voir que en matière de séjour de mort, il y a une évolution dans la Bible. Si vous lisez avant Abraham, avant l'intervention d'Abraham, père de la foi, tous les morts, croyants ou non croyants, étaient, leur âme était dans le même lieu. Ce lieu s'appelle en hébreu le Sheol. C'est là qu'ils sont là, ils étaient là, attendant quelque chose. Et puis, du coup, Abraham vient, tous les morts, croyant en Dieu, puisqu'ils sont fils d'Abraham par la foi, sont transférés dans un lieu qu'on appelle le sein d'Abraham. Et ils étaient là. Maintenant, quand Christ est ressuscité des morts, tous les morts qui étaient dans le sein d'Abraham sont transférés auprès du Seigneur Jésus. Nous avons là juste deux références. Quand je parle des morts, c'est-à-dire leur âme, dans 2 Corinthiens 5, verset 8, Paul dit, nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Dans Philippiens, chapitre 1, verset 23, je vous lis cela pour que vous sachiez que je ne raconte pas des histoires. Philippiens 1, 23, Paul dit ceci, « Je suis pressé des deux côtés, j'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. » Amen. Et il continue en expliquant que quand il meurt, il va rejoindre Christ. Donc, les morts dans le sein, qui étaient dans le sein d'Abraham, après l'arrivée de Christ, sont transférés. Et les morts maintenant, le Nouveau Testament nous enseigne que lorsqu'un enfant de Dieu meurt, son corps retourne à la terre, tandis que son âme rejoint Christ dans le ciel. Mais quand un inconverti meurt, son corps retourne également à la terre, mais son âme est envoyée dans le séjour des morts, un lieu de remords et de souffrance. Lors de l'enlèvement, le corps du croyant sortira du tombeau pour se réunir à nouveau avec son âme et son esprit, et les croyants demeurera éternellement avec le Christ. Vous avez compris? Donc, le corps se sépare de l'âme à la mort du croyant. Le corps est dans la terre attendant la résurrection. Mais l'âme va rejoindre le Christ, là où habite le Seigneur. À l'enlèvement, quand la trompette va sonner, le corps va ressusciter un corps glorieux pour s'élever et rejoindre son âme et son esprit. Donc, corps, âme et esprit glorifiés vivront éternellement avec le Seigneur. Donc, il ne faut pas qu'il y ait des confusions là-dedans. Le corps du païen meurt, va aussi dans la terre. Mais à la résurrection, il attend le jugement. Son âme ne reste pas dans la terre, mais va dans le Hadès, le séjour des morts, là où il y a des tourments et la souffrance. Et quand, à l'enlèvement, ce corps va ressusciter pour rejoindre son âme qui souffre, il se présentera devant Dieu pour être jeté définitivement dans les temps de feu. C'est la seconde mort. Ok? Alors là, je vais maintenant toucher peut-être 2 points importants de notre message aujourd'hui. Il est dit que dans le séjour de mort, le riche voit Abraham au verset 23, de loin, et Lazare dans son sein. Et puis, il crie, il parle à Abraham. Une remarque, certains croient que la mort nous rend inconscients. Non, frères et sœurs, la mort ne nous rend pas inconscients. La mort ne nous met pas dans un état d'inconscience. Dans la mort, nous avons tout le souvenir. Il voit Abraham, il se rappelle de Lazare, donc il connaissait son nom. Pourtant, il faisait semblant de ne pas connaître son nom. Deuxième chose, dans la mort, on sent la souffrance. Il dit à Abraham, « Je souffre cruellement. » Parce qu'il y en a qui pensent que la mort est un anéantissement, une annihilation. de l'être. Non, non, non. La mort n'est pas un anéantissement, ce n'est pas une annihilation. On sent la souffrance. Et il parle à Abraham de sa souffrance. Les disciples, et c'est ça le premier point que je voudrais mentionner, les disciples ont dû sursauter en entendant Jésus leur dire que ce juif riche était dans le Hadès, dans le séjour des morts. Que ce juif riche était dans le tourment. Pourquoi ils devaient être surpris et sursautés? Parce qu'on leur avait toujours enseigné que les richesses matérielles étaient un signe de la bénédiction et de la faveur de Dieu. La prospérité matérielle, leur disait-on, était promise à tout Israël qui observait la loi. En d'autres termes, si quelqu'un, si un juif est riche, c'est parce que Dieu l'a béni. Il est riche parce qu'il observe la loi. C'est ce que nous lisons dans l'Ancien Testament. Donc, parler d'un riche juif qui est en enfer, ça les étonnait. Et pourtant, ce que Jésus était en train de passer comme message, c'est que il est vrai que la richesse vient de Dieu, il est vrai que la bénédiction est une faveur de Dieu, mais la richesse est un test de la fidélité aussi de l'homme dans sa gestion des affaires. Dieu nous donne la richesse comme test pour voir si avec cette richesse, nous continuons à servir Dieu et à servir le prochain. N'oubliez pas les commandements. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Donc la richesse n'est pas seulement pour que nous puissions glorifier Dieu, mais c'est un test aussi pour voir si nous sommes prêts à servir le prochain avec la richesse que Dieu nous donne. En d'autres termes, lorsque, avec notre richesse, nous oublions le prochain, nous avons brisé la loi. Et en ce moment-là, la richesse nous conduit tout droit dans l'enfer. Ce pauvre était là, à la porte du riche. L'occasion lui a été donnée tous les jours d'aider ce pauvre, de le faire soigner, de lui donner à manger, etc. Mais il a considéré que la richesse était pour lui et pour sa famille. Notons, frères et sœurs, il dit, j'ai 5 frères, j'ai pitié d'eux, parce que je leur ai donné aussi toute ma richesse, parce qu'ils ont hérité ma richesse. Vous comprenez que il est vrai que nous devons nous occuper très bien de notre famille. Mais si nous oublions les malheureux qui sont là, ce que nous faisons à notre famille ne compte pas. Combien de personnes sont prêtes à travailler nuit et jour pour payer juste un billet pour faire venir son frère, sa sœur, son père, sa mère? Mais quand nous avons des malheureux avec nous, nous pensons que puisque nous avons fait ça envers notre famille, ça suffit. Votre richesse, notre richesse de Belgicains, de Bruxellois, nous va nous conduire en enfer et dans le Hadès. Vous avez suivi? Dites amen si vous avez suivi. Il dit, j'ai cinq frères. J'ai appris à mes 5 frères le même égoïsme. Je leur donne tout ce que j'ai et eux, ils ne donnent à personne d'autre. À part eux-mêmes. je veux qu'ils se repentent. Il y a le mot repentir, hein. Ça veut dire quoi? Qu'ils puissent aussi exercer la miséricorde. Je veux qu'ils exercent la miséricorde envers les pauvres et les malheureux, tout comme ils exercent envers les membres de la famille. Il ne faut pas négliger les gens de votre famille, mais il ne doit pas y avoir exclusivement que. Et il y a beaucoup de gens que Dieu va retirer leur bien-être à cause de ça. Et si nous voulons être une vraie église, nous devons savoir qu'il y a l'autre en dehors de ma famille. L'autre qui est malheureux. L'autre qui est misérable. Quand vous allez en vacances, vous faites quoi? La valise est remplie. Vous donnez seulement à la tante, à la cousine, à l'oncle, et puis après ils vont vous ensorceler. Hein, moi on m'a donné un costume déchiré, lui on lui a donné, moi on m'a donné. Il y a même, j'ai un cousin là, il est allé, il a donné l'argent à sa petite sœur. Et sa petite sœur a pris ça, elle dit, ça, tu donnes ça à moi, elle jette ça. S'il avait donné cet argent là, au voisin pauvre malheureux, en disant, Dieu m'a béni, je vis en Europe, viens, grand-papa, prends aussi ça, et allez lever les mains, et louer le Seigneur. Vous savez, je ne suis pas en train de décrier la famille, nous devons les aider, mais combien les familles africaines sont ingrates. Hein, je me rappelle un jour, je suis allé au Congo avec les Américains, et de Lubumbashi, ils ont loué un petit porteur qui nous a amené jusqu'à Kamina. Kamina, il y a une grosse partie de ma famille. C'est très simple. Mon frère est né à 20 enfants. Et son premier fils à mon âge. Donc, leur femme, leurs enfants. Et son second. Le second frère a, je crois, 15 enfants. Et ils sont tous à Kamina avec leurs grands-enfants, mariés, avec... J'ai vu tout un village à l'aéroport. Puis je demande, qui sont ces gens-là? On me dit, mais c'était neveux et leurs femmes et leurs enfants. Je dis, oui, Seigneur. Enfin, les Américains, nous n'avions que 4 heures à passer là-bas. Et ma mère était en ce moment-là en séjour chez ses enfants à Kamina. Et les Américains m'ont donné 1 heure pour aller passer dans ma famille. Je suis arrivé là. Ils m'ont accueilli. Savez ce qu'ils ont fait immédiatement après? Réunion. Ils se sont... L'autre s'est levé, qu'on s'est m'accusé. Tu fais ce pire, tu fais pas cela. Et puis ils ont parlé. Je savais pas ce qu'ils devaient dire. Et j'étais là, comme un misérable. Heureusement, un monsieur de notre village était là en visite. Et puis, à un moment donné, il s'est levé. Il a dit, mais vous là, vous êtes vraiment des méchants. Mais votre frère vient d'arriver. J'ai vu de mes yeux, il vous a amené. J'ai donné de l'argent à chaque femme. Il dit, j'ai vu cela, il vous a donné des habits, etc. D'ailleurs, tout ce que vous avez là, ça vient de lui, il a expliqué. Et puis, est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup de gens en Europe qui font ça? Ou qui aident leur famille? Et pourquoi vous ne l'accueillez pas? Et puis tout à coup, il y a un qui dit, c'est la pauvreté, hein, c'est la misère. Mais après avoir dit des choses méchantes, je vous assure, je suis sorti de là. Je dis, je vais juste prier pour vous et partir. J'ai prié pour eux, je suis sorti. C'est ça la famille africaine. Si j'avais donné même une chemise à cet homme de mon village, il allait bénir le Seigneur. Il allait dire, comme on dit dans notre langue, cracher par terre. Demandez ma bénédiction. Mais la famille. Je ne dis pas que nous ne devons pas nous occuper de la famille. Mais c'est rare que les gens de la famille se lèvent pour te bénir, pour tes bienfaits. Mais Lazare bénirait ce riche-là.
Alléluia.
ce juif est allé en enfer parce qu'il n'a pas exercé la miséricorde. Bien qu'il avait fait beaucoup pour sa famille, que Dieu nous aide à faire la part des choses, à faire le bien aux autres, à ceux qui ne sont pas de notre famille, à ceux qui sont devant notre porte, qui n'ont pas le droit d'entrer dans notre maison parce qu'ils ne sont pas de notre famille. Mais aussi d'avoir les yeux pour les voir et parfois les inviter aussi pour dire, viens manger aussi à ma table. La deuxième chose. Si vous lisez la réponse d'Abraham à ce riche, vous allez dire qu'Abraham n'a pas été très évangélique. Vous savez, nous autres évangéliques, gagner les âmes. Voilà quelqu'un qui lui donne une occasion pour gagner les âmes. Cinq frères. Abraham dit non, je refuse. Parce que l'argumentation que cet homme a utilisée n'était pas correcte. Il dit, si quelqu'un d'entre les morts va leur dire ce que eux, ils ne voient pas, ils vont se repentir. Alors, il faut que Lazare aille. Lazare, c'est ce grand prophète qui a vu l'au-delà, qui voit le futur. Lazare, c'est celui qui voit l'invisible que les autres ne voient pas. Hein? Si tel prophète arrivait dans ma famille, ils vont tous se convertir. Eh bien, Abraham dit, ils ont Moïse et les prophètes. C'est-à-dire, ils ont ce qui est écrit par la Torah et la prophétie. Ils ont la loi, ils ont la parole de Dieu, ils ont la Bible, la Sainte Bible, ils ont des prédicateurs qui ne connaissent pas l'au-delà, mais qui ont foi dans la parole de Dieu. Si ils ne savent pas obéir à la loi de Dieu, à la Bible, à ce qui est écrit, ce n'est pas un prophète qui changera quelque chose en leur faveur. Si je voudrais insister là-dessus, c'est parce que nous avons trop de chrétiens instables. Et nous sommes malheureux, surtout nous pasteurs, quand on apprend que tel, oh, il est avec tel, parce que la personne prophétise, etc. Mais je dis, quel jour les gens vont comprendre que nous n'avons pas besoin de suivre un prophète, nous avons besoin de nous soumettre à la parole de Dieu. Vous voyez ce que, comment Jésus termine le récit de façon brusque. Verset 31. Et Abraham lui dit, s'il n'écoute pas Moïse et les prophètes, ça veut dire, quand Jésus raconte ce récit, Moïse, les Pentateuques qu'on appelle la Torah, étaient déjà écrits, n'est-ce pas? Les prophètes sont déjà écrits. L'Ancien Testament est là, il n'avait pas encore le Nouveau Testament. S'ils ne savent pas lire ce qui est écrit dans l'Ancien Testament et obéir à ce qui est écrit dans l'Ancien Testament, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un des morts ressusciterait. Vous savez, je refusais de faire des mises en scène. Que quelqu'un vienne, parce qu'on suit les prophètes, je dis, oui, je vois. Non. Je ne fais pas de mises en scène. Si Dieu ne me montre rien, je ne dis rien. Si je ne vois rien, je ne dis rien, mais au moins je connais la parole. Alléluia. Qu'est-ce que la Bible te dit? Un prophète peut raconter n'importe quoi. Et souvent, c'est des mensonges. Généralement, la plupart des gens qu'on appelle prophètes sont des grands menteurs. C'est vrai. Vous savez, un jour à Kinshasa, c'est une dame qui nous racontait ça. Elle est allée, la dame qui nous racontait ça, elle est allée prier avec une autre dame. Ils ont prié et la dame a dit beaucoup de choses à cette famille-là, de ce que Dieu lui avait montré. Dieu m'a montré ceci, etc. Ils ont fini la prière. Et bien sûr, le mode d'emploi, qu'est-ce qu'ils doivent faire, hein? Parce que pour que la prophétie soit belle, Il faut toujours dire ce qu'il faut faire après. Bon, vraiment, sœur, merci beaucoup. Ils sont entrés dans la maison, ils ont amené une belle enveloppe. En tout cas, que Dieu te bénisse. Ah, vraiment, oh Seigneur, etc. Alors, en route, l'autre dame dit à la sœur, ah, juste là où nous prions, là, tu as vu tout ça? Elle répond, ce que Salibon va te coller, si tu ne fais pas ça, comment tu vas manger? Donc, cette maison-là est restée dans la confiance qu'il y a une prophétesse. Et chaque fois qu'elle vient, tout le monde tremble alors qu'elle vient chercher à manger. Vous voyez comment les chrétiens se vendent? Très, très, très peu de gens prophétisent la vérité. J'ai lu le livre de celui qui a le First Movement, c'est comment il s'appelle, l'Américain là, Kenneth Hagin, sur la prophétie. J'ai lu ce livre-là il y a longtemps, je pense que ça devait être dans les années 89-88. Il parle de la prophétie. Et dans ce livre-là, Kenneth Hagin, il explique que ça fait plus de 35 ans que j'exerce mon ministère. Et je vais de lieu en lieu, de réunion en réunion pour prêcher l'évangile. Il dit, chaque fois que j'ai terminé une réunion, une, deux, trois personnes s'avancent vers moi pour m'annoncer les oracles de Dieu. Dieu m'a dit, Dieu m'a montré, et voici sa conclusion. Sur mes 35 années de ministère, sur tout ce que j'ai pu rencontrer comme prophète, le Dieu m'a dit, le Dieu m'a montré, il dit, un seul m'a dit un jour la vérité. Le deuxième, je doute un peu. Tous les autres, c'était du mensonge. Ça, c'est le résultat d'une expérience scientifique de quelqu'un qui a essayé de tamiser ce qu'on dit, ce qu'on veut attribuer à Dieu. Ne cherchons pas le surnaturel. La Bible dit, les choses cachées sont à Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Alléluia. Je ne comprends pas cet engouement-là. Et ce qui m'impressionne, même les gens de la Nouvelle Jérusalem sont même les plus instables. Vous cherchez quoi? C'est parce que vous pensez que les choses de Dieu, c'est comme la cueillette ou quoi? Mais vous avez la parole de Dieu. Pourquoi courir, 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 courir? Il y a une fille qui est partie de notre assemblée, les gens l'ont suivie. Elle dit, ah, on a vu à moi des choses. Et quelles choses? À toutes ces années, on ne voyait pas ces choses-là. N'importe quoi. Si quelqu'un a besoin d'une délivrance, nous prierons pour la personne. La personne sera délivrée. Moi, je dis toujours, souvent, on n'en a même pas besoin. Parce que quelqu'un comme moi, je suis né le dernier de ma famille. Mon père est mort 4 ans. Une famille où mon père était fils unique, son père était fils unique, on a raconté beaucoup d'histoires. On a voulu me tuer depuis longtemps, plusieurs fois. Et puis, dans des familles comme ça, qu'est-ce qu'on ne mange pas? Je suis pas né dans une famille pentecôtiste. Hein? Je me rappelle les petites maisons où on nous donnait des histoires, les poules là qu'on consacre aux ancêtres, etc. Et qu'est-ce qu'on n'a pas mangé? Mais je ne me rappelle pas qu'un jour je sois assis les gens en train de prier pour moi me délivrer. Non, je me suis consacré tout simplement à Dieu. Les chaînes sont tombées et Dieu a ouvert une porte. Alors, il y a une personne qui disait, ouais, les pasteurs doivent venir, on doit les délivrer. Je dis, dites à tous ces gens-là qui se sont convertis après moi, quand nous étions dans le Seigneur, dans les années 70, mon pays était un des pays les plus prospères en Afrique. La richesse était visible au Congo.
Mais nous, nous étions déjà dans le Seigneur. Ils étaient où? C'est vraiment ce que quelqu'un a dit qu'il a dormi avec un serpent, et qu'aujourd'hui il a le droit de dire qu'il doit délivrer tout le monde. Mais c'est vrai. Jésus est catégorique. Quelqu'un de ressuscité des morts ne fera rien. C'est-à-dire que notre marche est selon la foi. Et la foi est dans la parole de Dieu. Alléluia. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Je connais des gens qui se sont donnés à Dieu. Seul dans sa chambre, il se met à vomir. Dieu le délivre là-bas, le purifie. Ça peut prendre 2 semaines. Nous pouvons l'aider. Mais Dieu fait son travail. La parole de Dieu fait son travail. Donc, ne soyons pas des enfants. Si nous appliquons les principes de la parole de Dieu, nous parlons de la miséricorde. Je libère mon cœur pour être attentif à Dieu. Les choses vont se passer. Si j'ai besoin d'une libération, je verrai la libération. Il y a une personne qui m'avait dit que je dormais exactement comme certains, quand ils dorment, ils voient des serpents, ils voient des combats, des batailles. Cette personne, c'est une femme à Kinshasa qui me disait, je dormais et j'ai vu qu'on était en train de me délivrer par la puissance du Saint-Esprit. Quand je me suis réveillé, ma vie était complètement changée. Dieu s'occupe de nous. Je ne dis pas qu'on ne doit pas aller chez les gens pour chercher l'aide et la délivrance. Mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est notre foi dans le Seigneur Jésus. Nous pouvons aller. Nous pouvons demander le secours. Mais ce secours-là, qu'il veut que tu quittes ton église. Alors, moi, je me pose beaucoup de questions sur ces prédicateurs qui veulent arracher les gens de leur assemblée. Vous savez, si nous n'ouvrons pas l'œil, les gens vont profiter de nos moments de faiblesse, de nos moments de misère, pour nous faire subir n'importe quoi. Je préfère encore que je meure comme Lazare, dans mes ulcères, dans ma misère, dans ma faim, et aller au ciel, que de commencer, parce que absolument, je dois bien vivre, de commencer à me compromettre n'importe comment. Accepte de mourir aussi comme Lazare. Si ça ne vient pas, ce que tu demandes, tu fais quoi? Vous pensez que Lazare n'a pas prié? Si, c'est juste, il a prié. Ce n'est pas venu, il a fait quoi? Si ça ne vient pas, tu fais quoi? Je connais rarement de ces gens-là qui ont vagabondé à gauche, à droite, qui ont reçu ce qu'ils cherchent. Vous allez les voir quand ils vous voient commencer à fuir. Parce qu'ils savent bien que là où ils sont, ils n'ont pas gagné ce qu'ils voulaient. Ils le savent. Ils commencent à vous fuir, ou bien ils commencent à mentir. Oh, hein, j'échouais toujours. Là, j'ai réussi. Moi, je dis, mais c'est faux. Et nous tous qui avons réussi ici. Il y a combien d'étudiants universitaires dans cette église qui réussissent? Même avec les deuxièmes sessions. Tant pis. Chaque année, nous avons beaucoup de diplômés. Beaucoup. Oh, là, je ne me marie pas. Mais nous marions chaque année. Des dizaines de personnes. Un jour, ton tour va venir aussi. On va te marier. Alors, ne crie pas trop. Ah, j'ai cherché des enfants, tu vas les avoir. Nous présentons des enfants. À 8h30, j'ai présenté un enfant. Donc, nous avons, Dieu nous donne, mais petit à petit. Donc, nous n'avons pas à souffrir un complexe envers qui que ce soit. Ce que nous recherchons, Dieu nous le donne. Combien de chômeurs ont trouvé du travail ici? Combien de gens sans papier ont eu leur papier ici? Combien de gens ont eu leur nationalité belge ici? Combien de ceci, combien de cela, combien... Oh Seigneur, merci, merci pour la nouvelle Jérusalem. Alléluia! Alors que Dieu nous aide, que quand nous sommes bénis, nous puissions utiliser notre bénédiction et gérer la bénédiction en fonction des principes de Dieu, et en particulier de la miséricorde. Amen. Nous nous inclinons dans la prière.